Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
94.3 Chiz.
Oh yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat du Beatnik Show, man. Je le dis, c'est malade.
Aux très chers auditeurs du Chiz 94.3. Savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Chiz 94.3 FM.
Et à tous, ici Azilise pour les affamés ce midi. On est avec Alexis et Megan.
Coucou!
Comment ça va vous deux?
Ça va super bien, toi?
Ça va, ça va. Bientôt la semaine de relâche?
Bientôt, et je m'en rends compte parce que, écoute, on dirait que ça se passe tellement rapidement depuis le début de l'année que je m'en suis rendu compte hier quand quelqu'un me dit « Hey, Megan, est-ce que tu descendais au lac Saint-Jean pour la semaine de relâche? » J'étais genre « C'est pas dans 2-3 semaines, ça? » Ben
et
non, c'est la semaine prochaine!
Et oui, ça arrive vite. Pour nous, Alexis, c'est quand même déjà presque la moitié de notre séjour. Ça
et
commence
oui, c'est,
à...
c'est une tristesse. Non, c'est vrai au début, j'avais un peu peur. Je me disais « Oh, 4 mois, ça fait beaucoup tout seul. » Et c'est vrai que là, je me dis « Oula! » Problème.
Ça passe trop vite.
Faut vite calmer le jeu parce que je n'ai rien vu. Vite, aidez-moi, j'ai besoin de voir cette ville.
Mais tu vas pouvoir aller visiter un peu Montréal, toi, pendant la semaine, c'est
oui,
ça, non?
C'est ça, c'est que je vais partir du coup à Montréal du coup du lundi au samedi. Donc ça fait à peu près 6 jours, donc je vais essayer de voir le maximum possible. J'espère pas comme un bon vieux touriste, hein, avoir vraiment les choses comme tout le monde va dire, voilà le classique. Non, faut me débrouiller pour trouver un guide local, on va dire, quelqu'un qui pourrait
trouver des petites idées. Bon, voilà. On cherchera ça en tout cas. Donc oui, il y aura la semaine de relâche, donc on sera pas là la semaine prochaine, mais on a quand même une belle émission à vous proposer aujourd'hui. On va vous parler de plein de sujets, notamment de négociations dans le secteur public. Il y a beaucoup de négociations en ce moment, que ce soit dans le secteur public ou ici à l'Université Laval.
Négociations. Grève.
Ouais,
ça me dit quelque chose.
Ouais, c'est assez constant depuis 2 mois globalement. Et sinon, qu'est-ce qu'on va. On va aussi parler de la Chine, parce qu'il y a beaucoup de sujets autour de la Chine en ce moment. Il y a beaucoup de débats entre ce qui se passe entre le gouvernement ici et le gouvernement chinois. Fait que voilà, plein d'actualités à traiter. On va commencer tout de suite en parlant des négociations du secteur public. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des forums qui sont organisés par Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, pour négocier les conventions collectives dans le secteur public. Est-ce que vous savez ce que c'est une convention collective ou pas?
Pas du tout bon cas.
Moi, je sais un petit peu c'est quoi, là. Une convention publique, c'est un arrangement entre un syndicat de travailleurs et soit l'entreprise ou le gouvernement dans certaines situations.
Oui, c'est à peu près ça, en effet. Les conventions collectives, c'est ce qui va définir les salaires, ce qui va définir aussi les avantages qu'on peut avoir dans certaines branches. Donc, c'est quand même quelque chose de très important et essentiel pour les années à venir et pour le financement, en fait, et les salaires que vont recevoir les gens. Ça touche, là, en ce moment, les négociations, 6000 salariés, ce qui est quand même beaucoup. Là, ce qui se passe, c'est que les syndicats, pour l'instant, dénoncent la manière dont les négociations sont gérées, parce qu'on fait des forums au lieu de faire des négociations classiques. Eux disent que c'est dans le but d'accélérer les débats et de pas vraiment poser les questions de fond. Sonia Lebel, de son côté, répond qu'à l'inverse, ça permet de mettre tout le monde autour de la table et de vraiment discuter. Donc voilà, ça se renvoie la balle comme ça depuis 2 semaines.
Ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression que les deux s'accusent de ne pas vouloir avancer, mais ça fait que finalement, personne n'avance.
C'est ça. Et surtout qu'il reste plus que 1 mois pour décider. Fait que ça va venir vite. Donc voilà, on va continuer de suivre en tout cas cette affaire-là, mais bon... On a l'impression qu'ils se renvoient la balle sans vraiment vouloir trouver de solution d'aucun côté, ce qui est quand même un peu bizarre, surtout dans un contexte de crise, que ce soit au niveau des écoles ou au niveau de la santé mentale et enfin du secteur de la santé en général. D'ailleurs, en parlant du secteur de la santé, on a une nouvelle qui est tombée hier, c'est Diamantis, j'espère que je le dis bien, qui est une entreprise innovante à Québec, qui était censée faire aider...
Une percée majeure voilà,
c'est
mondiale.
Ça, percée majeure, c'est ce qui était dit.
Qui travaille notamment pour la santé mentale, donc quand c'est même une entreprise importante ici.
Oui, en fait, ce qu'ils font, c'est que en faisant des examens de notre rétine, ils peuvent trouver si on a différentes pathologies comme de la schizophrénie, de la bipolarité. C'est quelque chose qui est très nouveau. On n'avait jamais vu une manière de diagnostiquer ces maladies-là ainsi. Ça vient d'études qui ont été faites ici, d'ailleurs, à l'Université Laval, et qui donc maintenant étaient dans cette entreprise-là pour pouvoir être développée et que d'ici 2 ans, ça aboutisse. Le souci, c'est qu'ils n'ont plus de budget. Donc, on reste coincé. Ce qui se passe, c'est que là, il y a 30 employés qui ont été remerciés parce qu'ils n'ont pas assez de budget pour garder leurs employés. Ils sont en recherche intense, mais bon, ça a l'air compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'investissements en ce moment dans le secteur de la santé et de la technologie, ce qui pose beaucoup de questions. On voit qu'il y a eu l'affaire Medicago il y a quelques semaines, même pas la semaine passée. Mmh. Alexis, tu nous en parlais un peu.
C'est vrai, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, pour faire un peu aussi une ouverture de débat, on va dire, je trouve aussi que ça pose une question au niveau pour les salariés eux-mêmes. Parce que j'en avais parlé du coup pour Medicago, qu'ils avaient beaucoup de chance que les spécialistes de leur domaine sont restés dans le Québec, ne sont pas partis dans les autres provinces ou même à l'international. Et c'est vrai que si le Québec n'arrête pas d'enchaîner le fait de remercier du coup ses salariés, il y a peut-être plus qu'une crise santé, mais plutôt une crise humaine aussi qui va se créer, je pense, au niveau de l'emploi.
Et ouais, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre en ce moment où bon, c'est assez simple d'aller ailleurs pour trouver un autre emploi. Et comme tu le dis, c'est quand même des employés qui ont une sacrée expertise. Il y a 30 employés qui avaient été embauchés en septembre. Là, il y en a. Non, 31 qui ont été embauchés en septembre, 30 qui partent maintenant. Dans ceux embauchés, il y a beaucoup de doctorants qui viennent de l'étranger, qui ont des compétences particulières dans ces domaines-là.
Et oui, puis c'est dommage dans un sens parce que la santé mentale, le besoin est criant à Québec et au Canada et partout dans le monde, mais notamment au Québec. Mmh. On n'en parlera jamais assez. À chaque année, il arrive certains drames qui auraient peut-être pu être évités si les personnes, justement, auraient eu de l'aide. Donc, des décisions comme celle-ci, je pense que c'est une décision brise-cœur qui mérite d'être d'en parler.
Ben, c'est ça. Et puis surtout que c'est un problème. Enfin, là, c'est une question de pouvoir diagnostiquer ces maladies-là qui est quand même la base pour pouvoir éviter qu'on ait des problèmes ensuite. Donc là, on se retrouve dans une impasse financière. Ce qu'on sait, c'est que du côté du ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, on réfléchit et la porte est ouverte à pouvoir aider l'entreprise. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé. Il y a une aide qui va peut-être venir, mais bon, c'est un petit peu tard parce qu'il y a déjà 30 employés qui ont dû être remerciés.
Puis surtout que c'est plutôt culotté de leur part, sachant que du coup, pour revenir à Medicago, mais c'est à peu près le même principe, ils s'étaient justement plaints de ne pas d'avoir réagi justement trop tard pour les avoir aidés. Donc bon, là, je pense qu'finalement, ils avaient l'expertise suffisante pour pouvoir gérer des crises similaires. Puis apparemment, ça n'a pas du tout suffi.
Ouais, manque de financement, on verra s'il y a d'autres solutions qui apparaissent, s'il y a d'autres entreprises qui décident de donner de l'argent pour faire avancer ces projets-là. En tout cas, on continuera de suivre les histoires qui se passent autour de cette entreprise. On va tout de suite faire une petite pause musicale et on revient ensuite pour parler de TikTok, Alexis.
Tout à fait.
On vous en dira plus tout de suite.
respect that, but I kinda wanna punch him in the balls. Wouldn't it be lovely if you just dumped the guy ASAP? Wouldn't it be lovely if you just dumped the guy ASAP? We'll throw a big party, I'll buy the balloons and the booze. There'll be a buffet, a Kleenex, we'll be ready for the grand old crafts. Oh, ice cream, Nutella and chips, you name it, I got it. But until that day comes, I'll listen and wait patiently and tell myself, wouldn't it be lovely if you just dump the guy ASAP? Wouldn't it be lovely if you just dumped the guy ASAP?
On est de retour sur le Chiz 94.3 pour les affamés ce midi de midi à 13h30 avec Alexis, Megan et Azilis autour de la table. Il y a un sujet auquel on n'a pas pu passer à côté de celui-là, c'est TikTok qui est interdit au niveau des employés du gouvernement fédéral. Plus droit d'avoir TikTok sur son téléphone portable. Alexis, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là ?
Très bonne question. Alors, donc ça vient juste de tomber, comme tu viens de le dire. Donc hier après-midi précisément, aux alentours de 1h, donc le gouvernement d'Ottawa et celui de Québec ont interdit l'application TikTok des téléphones portables de ses fonctionnaires pour des raisons de sécurité. Alors, bien évidemment, cette décision a suscité des réactions de la part des fonctionnaires, des politiciens, mais aussi des Canadiens en général, n'est-ce pas Mégane ?
Un petit Québécois.
Donc, cette interdiction alors, de TikTok, elle a été officialisée par la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Je pense que je l'ai bien prononcé.
Ça va.
Qui a déclaré dans un tweet, je cite, que les méthodes de collecte de données de l'application chinoise donnaient un accès considérable au contenu des téléphones mobiles. Alors, bien que le fédéral n'ait aucune raison de croire que des renseignements gouvernementaux ont été compromis, la décision a été prise à titre préventif. Donc ça, c'est ce qu'elle nous a mis donc, hier précisément à 1h, c'est pour ça que je l'avais dit. Donc c'est le premier mail qui est tombé. Alors en effet, la crainte de Mona Fortier est loin d'être infondée. Clairement, quand on se penche sur les conditions générales d'utilisation de l'application de cette dernière, on peut avoir accès à plein d'exemples. Donc qu'est-ce que je peux vous en dire comme exemple ? Donc par exemple, TikTok peut avoir accès à vos données d'identification. Donc ça comprend votre nom, prénom, adresse, email, votre numéro de téléphone et même ceux de vos contacts. Alors du coup, TikTok vous connaît mieux que votre mère, c'est plutôt chaud. Franchement, je me pose des questions à ce niveau-là. Mais aussi vos données de géolocalisation. Bah oui, parce que ça suffisait pas, hein. Après la mère, c'est le père. Pour que l'application vous affiche du contenu personnalisé. Et enfin, l'application peut avoir à vos données de navigation, ce qui comporte la façon dont vous utilisez l'application, les vidéos que vous regardez, les commentaires que vous faites, y compris vos brouillons. Hein, donc c'est-à-dire qu'ils ont même un peu accès à votre clavier. Donc en gros, je sais pas, si vous voulez dire à votre pote, hahaha, telle blague... plutôt douteuse, hein, on vous connaît. Non, du coup ça, vous l'effacez, bah en fait, même si vous l'avez pas noté, du coup TikTok l'a enregistré. Donc on a quand même à ce niveau-là. Du coup, et aussi enfin, donc les personnes que vous suivez. Tout ceci n'est qu'un échantillon de la possibilité d'action de TikTok. Hein, donc on se rend bien compte que j'aurais pu vous en sortir plein d'autres exemples, et c'est vraiment effrayant de voir que...
Mais c'est effrayant, mais est-ce que c'est surprenant? Moi, c'est ça que je me pose comme question, parce que il me semble que avec les dénonciations qu'il y a eu, notamment avec Snowden, il y a quelques années déjà, on a eu un petit peu... la vérité en pleine face il y a quelques années et on est au courant que la plupart des applications nous demandent d'accepter certaines conditions pour pouvoir accéder à ces applications de façon gratuite. Donc, est-ce que c'est surprenant? Oui, c'est inquiétant, mais pour ma part, j'ai pas été...
Oui, et puis d'autant plus choquée. Que c'est vrai pour ces... pour TikTok, mais c'est aussi vrai pour d'autres applications, enfin Facebook, Twitter, etc. C'est pas la seule, non, à faire ça?
Bah, je t'attendais là, justement. Tu me donnes une perche.
Vas-y.
Une belle perche en plus, hein. Parce que oui, alors, du coup, la question, c'est est-ce que finalement, pour le consommateur, je parle du consommateur, hein, pas encore des États, est-ce que ça vous dérange le fait que ce soit une application chinoise qui a accès à vos données ou les applications en règle générale? Parce que c'est vrai que, comme tu viens de le dire, Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore? Instagram, Twitter, tout ça. C'est quoi leur particularité? C'est toutes des applications américaines. Donc,
Oui, mais on a bien vu, justement, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ou si vous vous êtes renseigné sur Snowden, là, mais on a bien remarqué que les États-Unis nous espionnent de façon voilà. Inconsidérable.
Donc
que ce soit les États-Unis ou la Chine, si tu n'as rien à te reprocher dans ma tête, ça doit être correct.
Bah c'est pour ça que voilà, ça c'est un peu la continuité sur laquelle je voulais baser, mais c'est génial, franchement, vous avez toujours avant moi. Non, du coup, c'est ça, c'est que... Alors, pourquoi je reviens sur le truc américain? C'est que normalement, je dis bien normalement, mais bon, il y a toujours des possibilités, aux États-Unis, on peut pas avoir accès comme ça aux informations, comme je viens de le dire. Normalement, il y a des lois qui protègent les consommateurs, donc généralement, il faut passer par des procédures spécifiques. On peut avoir accès, mais c'est des procédures spécifiques. Quand là, l'application, et j'en reviendrai plus tard... puisque c'est contrôlé par le gouvernement, bah, c'est une entreprise chinoise et possiblement, et c'est même sûr, contrôlé par le gouvernement chinois. Ce qu'on a vu ces derniers temps, il y a des petites modifications au niveau de la loi chinoise qui permettent de s'ingérer dans toutes les applications. Donc il n'y a pas que TikTok, il y a aussi ByteDance. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le sort de WhatsApp chinois, je n'ai plus le nom. Quand je l'aurai, je vous le redonnerai. Voilà.
Hello Talk. Non.
Non, c'est pas HelloTalk, mais ça va être sûrement similaire.
Dans ces histoires, ouais,
on voilà. a l'idée.
Donc, on va revenir un peu à notre sujet. Maintenant, donc, il faut souligner que la décision d'étendre l'interdiction à tous les élus fédéraux revient au président de la Chambre des communes, Anthony Rota, dont un porte-parole a fait savoir qu'aucune décision ni date n'ont été fixées pour ce faire. Donc, jusqu'à maintenant, pour les téléphones portables, ce n'est seulement et seulement que les élus qui sont concernés.
Mais moi, là, j'ai une question. Là. Est-ce que c'est les téléphones qui sont fournis?
Voilà, c'est ça, les téléphones fournis.
OK, parce que les téléphones personnels, là, l'élu, elle peut bien faire ce qu'elle veut dans son parler.
J'ai pas des précisions, vraiment, mais en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que c'est des téléphones donnés par le gouvernement.
Mais si c'est un téléphone de travail, en premier lieu, je me demande pourquoi tu aurais téléchargé l'application.
En fait, ce que je sais pas, c'est est-ce que du moment où tu as un téléphone de travail, est-ce que en gros tu es obligé de ranger au placard ton téléphone pendant un certain temps ou est-ce que tu as le droit? C'est ça que je pourrais pas te dire, j'ai pas cette information. Okay. Mais c'est vrai que c'est quand même un point important. C'est vrai que du coup ça peut égayer le débat. Du coup, c'est ça. Donc Justin Trudeau n'a pas fermé la porte à une interdiction complète de l'application au pays, mais préfère que les Canadiens et les entreprises fassent, je cite, leur propre choix pour l'instant. Alors pourquoi les gouvernements du Canada ont-ils décidé d'interdire TikTok? Bonne question, je pense. La raison principale est liée à la sécurité des données. Les pays occidentaux sont de plus en plus méfiants à l'égard de l'application de partage de courtes vidéos, propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelques semaines, le président Joe Biden, donc le président américain, pour ceux qui ne sont dans une grotte, a ratifié une loi bannissant TikTok non seulement des téléphones des fonctionnaires fédéraux, donc à peu près comme ce qui se passe actuellement au Canada, mais aussi des élus de la Chambre des représentants et au Sénat. Cette annonce survient également au moment où le gouvernement Trudeau est appelé par les partis d'opposition à des experts à lancer une enquête publique sur l'ingérence dans les élections canadiennes par Pékin. Justin Trudeau n'a pas fermé la porte à une interdiction complète de l'application au pays, mais préfère que les Canadiens et les entreprises fassent leur propre choix pour l'instant. Je trouve que c'est important de le signaler, parce qu'il y a certaines personnes qui partagent des fausses informations à ce niveau-là, donc faites attention s'il vous plaît. Cette décision a également suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Certains Canadiens ont exprimé leur désaccord avec l'interdiction, arguant par exemple que c'est une atteinte à la liberté d'expression et que cela ne résoudra pas les problèmes de sécurité des données. D'autres ont salué la décision et en ont appelé à une surveillance accrue de l'utilisation des technologies chinoises. Donc c'est un débat que je vous laisserai faire si ça vous tente, et aussi du coup à nos auditeurs. Mais c'est trop long à commencer maintenant. Cependant, il est important de noter que l'interdiction de TikTok par le gouvernement canadien ne signifie pas que les Canadiens ne peuvent plus utiliser l'application. les citoyens peuvent toujours accéder à TikTok via des connexions VPN ou des réseaux privés. Hein, si jamais vraiment ils nous l'interdisaient, du coup il y a toujours des échappatoires, un peu comme Netflix. Hein,
toujours une solution.
On y va. Il est également important de souligner enfin que cette décision intervient dans un contexte de tension croissante entre la Chine et les pays occidentaux en règle générale, et pas seulement les États-Unis, en matière de technologie et de sécurité des données, parce que les gouvernements sont de plus en plus préoccupés. Alors je vais finir par l'exemple du coup de l'Union européenne. Du coup j'ai lu ça hier, ça m'a fait moyennement rire. Du coup l'Union européenne avait imposé du coup des restrictions à du coup TikTok, qui avait promis qu'il laisserait en gros leur filiale européenne se charger. Donc en gros ils ne pourraient pas avoir accès directement à ces informations là. Et retournement de situation, parce qu'on a appris que certains hauts fonctionnaires ont été espionnés par justement...
Donc on a la confirmation là, c'est sûr qu'ils ont été espionnés ?
Alors, la confirmation, je pourrais pas te le dire. Après, tu vois, c'est eux qui l'ont dit par le biais justement de la Commission européenne.
Oui,
peut-être que c'est politique, je pourrais pas te dire. Donc je préfère encore garder, voilà, comme je dis toujours, même ce que je dis, s'il vous plaît, regardez avant, ne prenez pas tout au premier degré ce que je dis, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est possible. C'est Ursula von der Leyen qui l'avait, je crois, rapporté. Elle s'en est plaint. Donc, ce qui s'est passé, c'est que même chose pour l'Union européenne. Les hauts fonctionnaires, leur téléphone portable, c'est aussi interdit. Du coup, l'application sur leur téléphone.
Ouais. Bon, on voit que c'est une décision qui est globalement géopolitique. Qui tous les pays de l'OTAN sont en train de faire la même chose globalement autour de TikTok,
d'interdire. J'ai oublié. L'Inde en 2020 aussi l'a interdit. Donc, c'est le premier qui l'a fait avant les États-Unis, du coup.
D'accord, c'est l'Inde qui a commencé en premier
à le
faire.
C'est l'Inde en 2020 qui a commencé. Donc, à peu près, je crois que Donald Trump, dans le même temps, voulait commencer à le faire.
Moi, je me souviens, il y avait des grosses rumeurs. Les Américains pensaient qu'ils allaient finalement perdre leur droit à TikTok.
C'est ça, oui. Parce que c'est Donald Trump, justement, qui forçait là-dessus. Il voulait absolument en finir avec cette application-là parce qu'il jugeait la sécurité
nationale
voilà, en danger. Donc on voit comme quoi que malgré que ça soit un républicain, les démocrates aussi commencent, bah, du coup Joe Biden aussi à y songer, donc on voit que malgré les oppositions politiques, ça reste une question étroitement partagée.
Okay. Eh ben oui, ouais, clairement c'est une question partagée, et le rapport à la Chine en ce moment avec le Canada est beaucoup remis en question. Il y a une autre actualité qui traite de ça, c'est la question de l'ingérence, tu l'as évoqué Alexis rapidement dans ta chronique. Alors je vais commencer par vous expliquer les faits, parce que c'est une histoire qui est quand même pas mal compliquée. Ce qui se passe, c'est que vendredi, le journal Global News a rapporté que, selon des sources anonymes, ils ne les ont pas données pour l'instant, Anne Dong, qui est donc députée libérale, aurait bénéficié d'une aide du consulat chinois dans les élections 2019, où les élections fédérales où il était élu. Alors, quelle est cette aide? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on n'a aucune information très claire là-dessus. On sait juste qu'il aurait été aidé. C'est ce qui est en tout cas rapporté par le journal. Les services canadiens du renseignement et de sécurité auraient à cette époque-là exhorté Justin Trudeau de prendre des mesures et de refuser qu'il soit mis en poste finalement. Ce que le Premier ministre n'a pas fait. En tant que chef de parti, il a même approuvé sa candidature et l'a soutenu. En début de semaine, il y a eu des réactions du Bloc québécois et du NPD qui demandent une enquête publique sur ces ingérences. C'est dur à dire, disons ingérences. voilà, ils veulent avoir une enquête concrètement pour savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a pu être fait, puisque pour l'instant, on parle d'ingérence, c'est une question qui fait beaucoup de débats. Genre partout.
On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup le nom.
Le nom ingérence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière pour l'instant?
C'est compliqué de savoir. Si le fait que le consulat chinois aille aider le député, oui ou non, s'il le fait, est-ce que c'est parce que la Chine souhaite avoir un impact, ou la Chine souhaite avoir des informations de l'État, jusqu'où ça va cette histoire-là? Et ça m'en vient à penser à... Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler une histoire similaire. Notamment, je me souviens, durant les élections présidentielles des États-Unis, lors de l'élection de Trump, il y avait eu énormément de rumeurs qui disaient que la Russie s'en était mêlée et que finalement, Trump, on ne sait pas trop si c'est vraiment... si c'était vraiment légal... la façon dont il est rentré en poste, ça avait fait énormément jaser, puis je me rends compte que, tu sais, c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent. Est-ce que on doit être, se sentir menacé de la démocratie? C'est des bonnes questions.
Oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus un peu partout dans le monde. En tout cas, pour l'instant ici, Justin Trudeau a l'air très peu partant pour qu'il y ait une enquête publique sur cette question-là.
Mais surtout que ça peut aussi poser des questions du coup, parce que si nos auditeurs nous écoutent bien toutes les semaines, du coup ça revient aussi sur le problème du ballon chinois qu'on avait retrouvé aussi...
Ouais, sur les questions d'espionnage, voilà. etc. Parce que, après, coup, bon, c'est que... pas la même, le même enjeu quand même.
Non, c'est pas le même enjeu. Mais je me pose la question que si jamais ça soit confirmé par la suite, ça poserait sûrement des questions de est-ce qu'il n'y a pas des agents, on va dire, un peu infiltrés? Est-ce qu'ils ne pourraient pas donner accès à certaines informations? Parce que, par exemple, est-ce que le fait que, justement, ils n'ont pas repéré pendant on ne sait pas combien de temps des ballons chinois, est-ce que ça ne serait pas quelqu'un qui a fait exprès, genre, soit de ne pas avertir, soit de faire exprès, tu vois, de ne pas regarder à ce niveau-là?
Ça, c'est des
faut faire attention.
Non, mais je pose des questions, mais en tout cas des hypothèses. Mais ça, en tout cas, c'est possible fortement. Et du coup, ça rejoint aussi du coup ce que vous disiez au niveau Trump, tout ça. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise israélienne. Alors, j'ai pas le nom. J'aurais dû me renseigner un petit peu avant.
Mais en fait, c'est plusieurs entreprises israéliennes. Ce n'est pas
seulement. Oui, c'est plusieurs entreprises. Oui.
C'est des entreprises qui sont privées aussi, donc qui n'ont rien à faire avec le gouvernement israélien. C'est important de le mentionner également.
Oui. Et alors, est-ce que l'un de vous deux peut résumer cette affaire-là pour nos auditeurs?
Vas-y Alexis, je faisais juste spécifier pour être sûr.
Non,
que...
mais t'as bien raison. C'est vrai que j'oublie souvent de spécifier. En gros, pour la faire très simple, de mon point de vue, donc, ce que j'en ai repéré, c'est qu'en France, sur une chaîne nationale, il y a eu un journaliste qui serait amusé à modifier au dernier moment des lignes éditoriales, des programmes, on peut dire. Du coup, donc, sur des informations, on va dire, plus ou moins influencées. Donc on a appris ça et du coup c'est une enquête de quelques journalistes qui sont partis du coup à Israël du coup, et c'est là où ils ont retrouvé une entreprise particulière de ces différentes entreprises. On rappelle qu'ils ne sont pas affiliés au gouvernement, c'est indépendant, et du coup ils ont apparemment eu la confirmation qu'ils seraient amusés à trafiquer des élections, notamment en Afrique, mais aussi un peu partout dans le monde.
Oui, donc encore une autre affaire où il y a des histoires un peu...
Je crois que c'est un gros mot. Oui. Je pense que c'est une entreprise qu'on a engagée afin de modifier le cours de l'élection afin qu'un certain parti soit plus élu que l'autre, ou etc. C'est vraiment une firme privée qui se spécialise dans les élections, qui est dans les relations publiques. Fait, je pense pas qu'on peut utiliser le mot amuser, mais
non,
on...
Non, c'est vrai que là, tu le vois sous le seuil pragmatique. C'est vrai que moi, je faisais ça plutôt sous le seuil ironique. Mais tu as raison, oui.
Oui, c'est quand même une affaire sérieuse, en tout cas. Mais bon, donc oui, globalement, on observe que ça arrive de plus en plus. Après, il faut faire attention, je pense, à pas tomber dans le biais de se poser peut-être parfois trop de questions et s'imaginer trop de choses autour de ça.
Non,
faut rester sur les faits aussi, quoi.
Ça pourrait être intéressant... que le gouvernement Trudeau accepte de faire cette enquête-là, seulement par prévention. Seulement par prévention et afin de rassurer le public, car on nous apporte cette information-là sans nécessairement nous rassurer. Donc, avec cette enquête-là, on pourrait savoir les vraies affaires, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi le journal de Globe and Mail a sorti cet article.
Le Global News, mais oui.
Le Global News, excusez-moi.
T'inquiète, pas de souci. En tout cas, on va continuer de suivre cette affaire-là et on verra si une commission est ouverte ou pas dans les semaines à venir. Tout de suite, il est déjà 12h30, donc on va prendre une pause musicale et une pause publicitaire. On revient juste après pour parler de Hockey Junior.
À tout de suite.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Coriandre. Aux affamés, on débat de choses tout aussi déchirantes et un brin insignifiantes.
Et on va continuer de débattre, alors peut-être pas de la coriandre, mais plutôt de ce qui se passe autour de la Ligue de hockey junior. On suit cette affaire-là depuis un moment maintenant, depuis que c'est sorti la semaine passée. Ce qui se passe, c'est que Gilles Courteau, qui est le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on a appris aujourd'hui qu'il avait reconnu dans un témoignage sous serment en 2021 qu'il avait constaté depuis 45 ans des problèmes liés au bizutage dans son organisation. 45 ans, retenez bien ce chiffre, c'est important. Alors que la semaine passée, il était devant la commission parlementaire au sujet des abus qu'il y a eu dans les ligues de hockey junior. Et il nous disait que oui, c'était un problème il y a 20 ans, mais que là, ça va mieux, qu'il n'y a rien eu dans sa ligue, etc. Donc bon, on se pose beaucoup de questions sur les propos de Gilles Courteau en ce moment, sur qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi est-ce qu'il change de point de vue comme ça. Surtout que devant la commission parlementaire, il disait qu'il n'y avait pas eu de problème dans sa ligue. On l'a appris plus tard dans la semaine que Stephen Quirk aurait été victime d'abus sexuels lors de son passage dans la Ligue de 1995 à 1998. Donc, il y a quand même comme une volonté de cacher un petit peu ce qui s'est passé dans sa Ligue, ou je sais pas ce qui se dit, mais
c'est de
c'est
se
bizarre.
Fermer les yeux, de se dire « Moi, je l'ai jamais vécu, donc ça existe pas. »
Oui, c'est vraiment ça.
C'est je pense que il y a aucune mauvaise foi nécessairement de la part du monsieur, c'est seulement de sa perception peut-être à lui, ou bonne question. Ça fait poser des questions.
Ouais, mais pour moi je comprends pas d'avoir cette capacité sur une affaire aussi grave à être devant une commission parlementaire et dire il y a plus trop de problèmes, ça va dans ma ligue, alors que l'année d'avant, il y a 2 ans, il disait oui, il y a des problèmes. Et c'est ça qui me perturbe beaucoup, surtout que faut quand même se rappeler que la commission parlementaire, elle a été fermée suite à son entretien. Donc c'est-à-dire que maintenant, il n'y en a plus. Donc bon, c'est une affaire qu'on va continuer de suivre, encore une fois, mais ça me paraît assez fou que le commissaire de cette ligue puisse ouvertement changer de propos aussi rapidement et qu'il ne se passe pas grand-chose de plus. Je ne sais pas, vous, ça ne vous surprend pas ?
Oh, il n'y a plus grand-chose qui me surprend avec, avec cette association-là.
Oui.
C'est pas surprenant. Puis, tu sais, je veux pas être l'avocat du diable, mais en même temps, je comprends qu'ils veulent défendre leur association, qu'ils veulent transmettre une bonne image pour pas décourager certains joueurs qui voudraient se rendre là. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs à savoir, là.
Je pense que
c'est pas de la mauvaise volonté. Je pense qu'ils souhaitent volontairement se fermer les yeux sur certains sujets parce que ils veulent voir le positif. Malheureusement, ce n'est pas que des belles roses qui arrivent là-bas. C'est, il y a un petit peu d'épinettes qui piquent un peu.
Bah, même plus que d'épinettes, pour le coup. c'est quand même assez terrible ce qui s'est passé dans ces ligues et bon.
Après, ouais, c'est vrai que, effectivement, est-ce que ça m'étonne ? Je te dirais oui et non. C'est un peu la même chose. Souvent, dans ce genre de ligue, ça arrive très très souvent qu'on part d'un constat. Et peut-être que là, il se dit, bon, ben, après la commission, tu sais, il a essayé d'arranger les choses dans son idée. Et du coup, il se dit, bon, ben, à ce niveau-là, c'est plutôt bon.
Oui, bon, on verra ce qui se passe. Il y a le nouveau code du vestiaire qui a aussi été instauré. On vous en a parlé la semaine passée. On espère que ça va évoluer dans le bon sens et qu'il n'y aura plus d'abus dans les années à venir, mais bon. C'est un peu dur d'y croire pour l'instant, en tout cas. Quelqu'un d'autre qui se ferme les yeux, c'est Suzanne Roy, la ministre, qui nous dit « Tout va bien, il n'y a que 33 000 enfants qui attendent des places en garderie, c'est pas 70 000, contrairement à ce qu'on a pu apprendre la semaine passée. » Il y a une espèce de guerre des chiffres qui est en cours. Elle nous dit « Vous inquiétez pas, tout va bien, il ne faut pas faire de guerre des chiffres. Il n'y a que 33 000 enfants qui attendent pour avoir des places, alors qu'on sait qu'il y a 39 000 enfants de plus depuis le 31 août. Donc les 33 000 enfants en attente, c'était au 31 août 2022. Depuis, il y en a 39 000 de plus ceux qui sont encore dans le ventre de leur maman et qui se sont déjà inscrites pour avoir une garderie. Fait que le chiffre est quand même bien plus gros que ce qu'on veut nous faire entendre. Et Suzanne Roy nous dit, il n'y a pas de guerre des chiffres, nous dit c'est 33 000, puis nous dit oui, il y a aussi ces autres chiffres-là, mais il ne faut pas les additionner au premier. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre à quel moment elle se dit que ça va passer. Mais
je pense que la ministre, elle vit dans le présent.
Oui.
Et présentement...
Le présent, le déni.
Ben, peut-être, je ne sais pas. Elle vit dans le présent et maintenant, sa mission, c'est de trouver 33 000 places en garderie. Bon. Faut pas parler des 28 000 qui s'en viennent dans moins de 9 mois. Mais oui, dans sa tête, pour le moment, c'est ces places-là qui sont prioritaires. Puis je peux comprendre. Peut-être que ça serait pertinent de sa part de
réfléchir après, quoi.
Calcul, parce que je peux comprendre là, qu'il y a certains politiciens qui sont inquiets en ce moment. Parce qu'ils ont peur que la ministre se concentre seulement sur ce chiffre-là, débloque ces places-là, mais que finalement, il en manque encore une bonne trentaine de mille. Tu comprends? C'est pas une petite centaine. Non, là, on parle de dizaines de mille. C'est autre chose.
Ben, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle vit dans le présent, ça c'est assez clair par ce qu'elle peut nous dire, mais moi je trouve ça bizarre qu'une ministre justement n'anticipe pas ce qui va arriver dans les 6 mois à venir, littéralement, parce que...
Mais je pense que si elle pourrait le faire, elle le ferait. Mmh. Je pense pas que c'est... Encore là, je me répète, je pense pas que c'est de mauvaise foi.
Okay.
Je pense que c'est plutôt parce qu'ils en sont là et qu'ils savent pertinemment qu'il serait pas possible de créer autant de places en garderie en moins de 4 ans.
Mm.
Tu sais, je peux comprendre le réalisme de la situation.
Oui.
Mais après, même s'il n'y a pas de place, on peut essayer quand même de trouver des... Comment dire?
Des alternatives.
Des alternatives, quand même.
Mais je pense qu'ils ont déjà trouvé l'alternative de financer des garderies privées, là, que j'ai pu lire.
Il y a beaucoup de garderies en préfabriqué qui vont être construites, là, dans les mois à venir. Donc, je veux pas jeter la pierre. Ils font des efforts et il y a des garderies qui sont en train d'être construites. C'est juste que je trouve ça bizarre et pas forcément honnête envers les parents que de
je peux comprendre.
Et surtout, je
peux comprendre la frustration puis le manque de patience, mais une ministre ou le même le premier ministre, ce n'est pas des super-héros. Ils ne peuvent pas trouver des solutions en criant ciseaux. Ça prend du temps. Le temps manque parce que les enfants, le besoin est criant, mais ils ne peuvent pas arriver demain matin puis régler le problème en tout de suite là. Tu sais, c'est un problème sur le long terme qui va finir par être débloqué, mais ça va prendre du temps.
Je suis d'accord avec toi, mais du coup c'est ça, c'est que même s'ils peuvent pas le faire maintenant, faut quand même commencer les démarches pour justement qu'après ça se reproduise plus. Faut quand même
Ouais, mais là on va commencer à régler le problème avant de se refaire un bateau là.
C'est sûr,
c'est
mais
ça.
Faut essayer quand même de faire les deux en même temps, je pense, mais
oui, oui, oui. Bon, en tout cas, on verra si les chiffres vont évoluer ou pas. Qu'est-ce qui va être décidé finalement. Sur un tout autre sujet, on a une question de contamination des eaux, Megan.
Tu parles de contamination d'eau.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'as pas ta gourde aujourd'hui. tu vas pas boire d'eau?
Oh mon Dieu. Je vais vous dire que j'ai un petit peu peur de boire de l'eau en ce moment là. J'ai lu un article qui m'a appris quelque chose que je ne savais pas, comme probablement la plupart des Québécois et Québécoises. Dans le fond, l'eau potable de la presque totalité des municipalités partout au Québec présente des traces de PFAS.
C'est quoi ça?
Là, vous allez me dire, ça mange quoi en hiver, Mégane? Eh bien, je vais vous le dire. On l'appelle l'acronyme PFAS, mais ça veut dire, et là, j'approche mon ordinateur pour être sûre de pas faire de gaffe, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Wow, du premier coup, bravo!
Là, je repose la question, Megan, ça mange quoi en hiver? C'est très simple. C'est une classe de substances chimiques qui est abondamment utilisée dans les produits domestiques qui permet de dignifuger ou d'imperméabiliser des objets. Donc, on l'utilise à peu près dans la vie de tous les jours, puis ça fait que là, maintenant, c'est rendu dans notre eau. Donc, dans notre corps. Et c'est des substances qui restent un peu comme pour la vie.
Oui, elles sont éternelles, c'est ce qui était expliqué.
Oui, c'est ça, exactement. C'est des substances qui sont éternelles et que le corps humain n'arrive pas à s'en défaire. Ce qui est arrivé, c'est que des chercheurs ont échantillonné l'eau potable de 376 municipalités québécoises dans 17 régions administratives. C'est un exercice qui a commencé en 2018 et qui représente le plus gros portrait à ce jour dans le domaine au Québec d'eau potable. On s'est aperçu que sur 300 municipalités, il y en avait deux qui avaient des concentrations anormales, voire très élevées. Et certains chercheurs, certains scientifiques sont devenus inquiets, disons. C'est les municipalités de Saint-Donat et Val-d'Or. Et ces deux municipalités qui sont approvisionnées, excusez-moi, en eau souterraine. Donc, le PFAS a rentré dans la nappe phréatique.
Oui, la nappe phréatique, oui, c'est ça.
La nappe phréatique, excusez-moi, là, je suis tellement scientifique dans ma vie. Mais oui, c'est ça. Donc, ça aurait rentré dans la nappe et ces deux municipalités-là, ils souffrent d'une très grosse présence. Là. On parle dans la municipalité de Saint-Donat un total de 68 à 82 nanogrammes par litre. Et à Val-d'Or, c'est de 35 à 171 nanogrammes par litre. Pour vous mettre en contexte, le gouvernement du Canada considère que le taux maximal qu'on doit retrouver dans l'eau ne doit pas dépasser le 30 nanogrammes par litre. Les échantillons de Saint-Donat dépasseraient donc de plus du double de ce chiffre. Et à Val-d'Or, la concentration d'un de ces échantillons en ferait presque six fois la taille. vous comprendrez que ça sent pas, cool. pas bon. Ça sent c'est pas sûr. Bon. Il y a quelque chose. Il y a également deux autres municipalités qui excèdent cette proposition-là. Pas de beaucoup, mais quand même. Il y a Sainte-Adèle dans les Laurentides et Saint-Cécile-de-Milton qui sont entre 30 et 36 nanogrammes par litre.
Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Enfin, si on boit cette eau, est-ce qu'il y a vraiment un risque concret ou pas?
Bon, malheureusement, aucune recherche peut prouver combien de nanogrammes par litre ça prend pour devenir dangereux pour le corps humain. Cependant, c'est un fait scientifique que les gens peuvent tomber malades grâce à ces substances chimiques-là, notamment peuvent contracter le cancer, des problèmes de thyroïde, des problèmes de fertilité, nommez-en. Il y en a énormément. Et c'est pour ça que certains chercheurs sont de plus en plus inquiets et même se demandent pourquoi le Canada donne un chiffre comme 30 nanogrammes par litre. Ça veut dire quoi? D'où t'as pris ton chiffre? Même les États-Unis, j'ai fait des recherches tout à l'heure, même les États-Unis ne savent pas combien ça prend de nanogrammes par litre afin de devenir dangereux pour la population. Donc, ça se pourrait là que moins de 30, ça devienne un enjeu pour notre santé. Moi, ça me fait poser énormément de questions. Je me dis, est-ce qu'on devrait mettre des filtres avant de, ben, sur nos lavabos avant de consommer l'eau potable? C'est une question qu'on se pose. Le ministère de l'Environnement assure de son côté que l'eau potable est de bonne qualité au Québec. Ils ont même nommé un microbiologiste afin de répondre à certaines questions parce que j'ai pris l'article sur Radio-Canada et ils ont nommé le microbiologiste Philippe Quentin afin de répondre aux questions et celui-ci a dit qu'il est fier du travail de son équipe, il le défend, il dit notamment que l'eau potable du Québec est l'une des meilleures au monde, donc de son côté il n'est pas inquiet, mais il a tout de même dit que les recherches qui ont été effectuées, les chiffres qui ont été trouvés, c'est des véritables chiffres et que malgré tout, ça pourrait devenir une inquiétude. Mais encore là, ils n'avaient pas assez d'informations dans ces dossiers pour répondre véritablement à la question. Mais moi, là, je vais vous dire. Sur cette grande situation-là, ce qui me chicote le plus... Chicote, est-ce que vous savez c'est quoi? Ce qui me dérange
le plus. Ce qui tracasse le plus,
oui, ouais. Ça me tracasse. C'est le fait que le ministère de l'Environnement a le dossier, a reçu les résultats de cette enquête-là depuis mai 2021 et ils n'en ont jamais informé les municipalités de Val-d'Or et de. Attendez-moi. De Saint-Donat, pardon. Oui. Ils lui en ont jamais parlé. Et si la municipalité de Val-d'Or l'a su, c'est grâce à Radio-Canada qui ont décidé de les informer des résultats. Et c'est là que Val-d'Or s'est vraiment questionné à savoir est-ce que notre eau est bonne pour les habitants? Est-ce qu'on les rend malades? Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de finalement se fermer un puits qui utilisait pour l'eau potable et n'en utilisait qu'un seul qui contient beaucoup moins de nanogrammes par litre. Mais ça nous fait poser beaucoup de questions, là. Moi,
C'est long, quoi. Pourquoi ils n'ont pas été prévenus tout de suite, quoi? C'est ça la question que ça,
ben, c'est ça
pose,
c'est,
surtout.
C'est pourquoi que le ministère de l'Environnement... Est-ce qu'ils ont souhaité cacher l'information pour pas inquiéter le public?
Puis moi, je trouve que ça pose aussi une autre question. C'est parce que tout à l'heure, tu m'as parlé des nappes phréatiques et ça, c'est un sujet très, très important dans tout ce qui est au sujet de l'eau. Parce que si tu me dis, du coup, ça va dans les nappes phréatiques, ça pose un énorme problème de sécurité, je pense.
Ben oui, parce que c'est pas la première fois qu'on a des problèmes comme ça, là. Je sais pas si vous avez déjà entendu, notamment, là, le problème qu'il y a eu à West Virginia avec, justement, un autre procédé chimique avec la compagnie DuPont, notamment, qui savait pertinemment qu'il poisonnait les habitants d'une ville, mais qu'il continuait parce que c'était bon économiquement. Donc, sur 69 000 habitants, il y en a eu environ 3 000 qui ont tombé malades, soit de cancer des testicules, cancer du rein, problème de la thyroïde, problème de fertilité. Donc, c'est un énorme enjeu qu'on voit de plus en plus. Et j'ai l'impression que les gouvernements ne sont pas encore assez informés des enjeux. Donc, les entreprises, les multinationales en profitent pour faire des profits sur la santé des gens.
Ouais, je pense qu'au-delà de ça, enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un problème global et qui s'est observé à plusieurs endroits. Après, moi, je pense que pour prendre un peu la position du gouvernement, c'est aussi qu'ils ont peu d'informations et que du coup ça vient inquiéter la population sans vraiment avoir de réponse.
Justement, mais
en même temps, c'est légitime de dire que...
pourquoi qu'on n'ouvrirait pas une enquête pour s'informer à savoir si c'est véritablement dangereux pour la population ou pas et à quel moment ça devient dangereux, parce que là on a fixé
un seuil.
Mais on sait même pas si... Tu sais, j'ai l'impression qu'on a mis des chiffres dans un bol, qu'on a pigé, on a tombé sur 30, puis on s'est dit, bon, c'est bon, c'est ça, ça va être 30 nanogrammes par litre. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire du côté du gouvernement, autant provincial que fédéral, pour mettre la lumière là, sur cet événement-là. Parce que si les gens tombent malades à cause de l'eau, ça commence à être quelque chose qui est grave. Là.
Puis il y a aussi le truc, du coup, pour revenir, tout ce qui est les bouteilles d'eau aussi. Parce que est-ce que ça impacte aussi les bouteilles d'eau qui sont commercialisées ou...
Je pourrais pas vous informer.
Parce que du coup, ce que je me pose aussi la question là-dessus, c'est déjà qu'on dit, tu sais, dans les bouteilles d'eau, en gros, il y a les micro-particules de plastique. Donc du coup, si les gens ne peuvent pas aller chercher de l'eau dans le magasin parce qu'il y a les micro-particules de plastique et tu peux pas aller boire dans le robinet parce que bah du coup il y a ces particules là, on boit quoi?
C'est sur 300 municipalités là, on en a détecté deux qui avaient un taux anormal.
Ok.
C'est beaucoup plus supérieur à ce qu'on retrouve normalement. Donc
ça reste un truc très gros guillemets minime.
C'est ça, malgré tout, ça touche quand même seulement deux municipalités. Moi je fais juste relever la question de si jamais le 30 nanogrammes par kilo, ça marche pas. C'est
qu'est-ce qu'on fait, quoi?
Ça touche combien de municipalités? On en est rendu où? Puis c'est quoi le vrai chiffre?
Bon, mais on verra s'il y a une commission ou s'il y a une enquête qui se monte. Pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. L'information est sortie en disant qu'il y avait ces problèmes-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de grosse réaction au niveau du gouvernement. Une autre information qui est sortie qui touche notre santé, c'est qu'apparemment, il y a de plus en plus de jeunes qui fument. Est-ce que c'est votre cas, là, autour de la table?
Non.
Non, moi non plus, je ne fume pas.
Moi, j'avoue, en soirée, parfois, mais sinon...
Oh, la petite coquine. C'est vrai que la petite clope à la fin de la soirée, c'est très bon.
Ah, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Non, c'est pas bon pour ta santé, oui. ça fait parfois du bien. Il y a un sondage qui est sorti, un sondage de chez Léger, pour le réseau du sport étudiant du Québec, qui révèle que plus du quart des jeunes sondés affirment fumer au moins 26% des jeunes sondés affirment fumer au moins occasionnellement et 28% la vapoteuse. Donc on voit que c'est des niveaux qui sont presque similaires pour la vapoteuse et la cigarette classique, on va dire. Moi j'avoue que ça m'a surprise parce qu'on entend tout le temps dire que les jeunes vapotent beaucoup plus et arrêtent la cigarette classique entre guillemets, etc. Alors qu'au final, pour l'instant, les chiffres restent à peu près les mêmes.
C'est fou.
Ouais. Je sais pas. Pour moi, ça aurait été évident que la vapoteuse soit plus haut que ça. Après,
mais la plupart des gens que je connaisse qui fument, ben c'est juste qu'ils vapotent là. Ils fument pas la vraie cigarette là. Donc moi, j'ai quand même été surprise de savoir que la cigarette a devenu, ben pas devenait populaire, mais tu sais qu'a gagné quand même du terrain là. C'est fou. Oui.
C'est vrai.
Peut-être aussi parce que c'est à cause de tout ce qui est les emballages, des choses comme ça. Il y a peut-être du marketing aussi qui rentre en jeu. Puis c'est quelque chose assez, on va dire, c'est dans les mœurs maintenant, genre de fumer pour certaines personnes. Donc, il y a peut-être ça aussi qui rentre en jeu.
Il y a une autre statistique qui m'a marquée là-dedans, c'est que 93% des jeunes considèrent que la vapoteuse est pas si dangereuse que ça. Ouh. Alors que pour la cigarette classique, maintenant tout le monde est d'accord, 100% pour dire c'est dangereux. 93, bon, d'accord, la majorité est d'accord pour dire que c'est dangereux, mais 7% c'est quand même pas mal. Et... enfin, faut quand même rappeler que c'est aussi dangereux et que on sait pas encore exactement tout ce qu'il y a dans ces vapoteuses, donc faites attention
là-dessus. C'est ça qu'il y a des polychimiques ou des choses comme ça.
Même, il y en a qui mettent énormément de grammes de nicotine, genre 20 grammes de nicotine. Moi, j'en ai 25, 28. Hey, ça commence à en faire, là.
Puis ouais, puis tu commences par faire un petit chiffre et au fur et à mesure, tu augmentes ta dose.
C'est
donc
fou.
Forcément, oui, c'est dingue.
Puis ça coûte cher. Moi, c'est ça qui
me fait capoter. Énorme aussi.
Moi, là, quand que je vois les gens qui fument, je dis, lui, il a un budget dans sa vie. Là, genre, moi, je place 30$ par semaine pour partir dans le sud à chaque année. Là. Mais là, lui, là, son 30$, il le met pour vapoter. Moi, ça me fait capoter, vraiment.
Ah, pas mal. Non, mais c'est vrai que... Non, oui. Excusez-moi, tu m'as fait perdre la parole.
Il est devenu sans mots.
Ouais, tu m'as bouche, mais je ne m'y attendais pas à ça.
En tout cas, des statistiques surprenantes. On verra si ça baisse dans les années à venir. Ce serait peut-être mieux que ça augmente.
On se passe les doigts. Là.
On espère quand même.
C'est plus une mode de fumer. Là. C'est plus beau. Là.
C'est bon. Ça m'est revenu. Du coup, c'est aussi...
Il est en train de chercher depuis une minute.
Non, du coup, aussi, ce que je trouve ça étonnant, c'est qu'il y a quand même une belle augmentation. Et par le fait aussi qu'au Canada, j'ai remarqué, de mon point de vue français, qu'il y a beaucoup de restrictions pour fumer, par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant qu'il y ait beaucoup de jeunes quand même qui fument, malgré qu'on interdit un peu.
Après, quand t'es ado, tu fais l'opposé de ce qu'on te dit souvent. Oui, donc, du coup, quand
mais
on te dit ne pas fumer...
En gros, ce que j'ai compris, il y a une grosse amende qu'on peut se prendre si jamais on fume pas dans le bon lieu adéquat. Lieu adéquat. Mais voilà. Mais c'est pour ça, du coup, je trouve ça assez étonnant.
Oui, bon, en tout cas, on espère que vous allez arrêter de fumer, c'est mieux pour vous.
C'est mieux pour vous, puis.
Et puis c'est mieux pour vos camarades aussi.
Là, que vous allez économiser si vous arrêtez de fumer, là. Ma mère, elle a arrêté de fumer la semaine passée. Pas la semaine passée, là, mais dernièrement. Puis elle m'a dit que depuis ce temps-là, elle dépensait son argent dans autre chose, puis ça ne faisait beaucoup.
Il va être temps de prendre une petite pause musicale et une pause publicitaire. Au retour, on a un entretien. J'arrive plus à parler aujourd'hui, moi.
Elle est fatiguée.
Il est temps que ce soit la semaine de relâche. On a une entrevue avec le SPUL, le syndicat des professeurs de l'Université Laval, pour parler de la grève. Vous avez pas pu rater cette info-là. Vous avez plus cours depuis une semaine ou un peu moins. Donc, voir où on en est, voir si on part peut-être sur une grève illimitée. On n'espère pas, mais bon, on va discuter avec eux de tout ça après la pause musicale.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est le temps de vous inscrire à Force Avenir. Vous êtes engagé dans votre milieu? Participez à un projet qui a des retombées concrètes? Vous êtes un candidat idéal pour Force Avenir qui reconnaît l'engagement d'étudiants comme vous. Au total, une somme de 114 000 $ sera remise sous forme de bourse pour récompenser les lauréats. Pour plus de détails, rendez-vous à inscription.forceavenir.qc.ca ou communiquez avec le service de la vie étudiante de l'université. Les inscriptions se terminent le 31 mars. Bonne chance à tous!
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
De l'Égypte antique, la mère créatrice d'amour romantique. Je prends ce sacrifice, ce poème, ce cantique, pour que l'apocalypse, en cette nuit d'éclipse, entre nous finisse, comme les astres s'unissent. et fluide. Allumez les bougies. Je suis inspiré des druides et de l'astrologie. Sacré de l'Atlantique, d'où je tire l'énergie. Évangélisatrice de la sève d'Osiris.
Contre la coriandre. Aux affamés, on débat de choses tout aussi déchirantes et un brin insignifiantes.
Oui, toujours des débats sur le 694.3 ce midi pour parler d'actualité sur les affamés avec Azilise, Alexis et Mégane autour de la table. Et il y a un débat que vous n'avez pas pu rater si vous êtes à l'université en ce moment, c'est la question de la grève des profs qui est en cours pour retravailler la convention collective. On accueille ce midi autour de la table Madeleine Pastinelli, qui est la porte-parole du comité de négociation pour le SPUL, le syndicat des professeurs de l'Université Laval. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour prévu à l'agenda pour les négociations, si je me trompe pas.
Non, c'est pas le dernier jour des négociations, mais c'est le dernier jour avant notre prochaine assemblée générale qui est prévue jeudi matin. Mais normalement, les négociations se poursuivent et donc après l'assemblée générale, la semaine prochaine, normalement, on négocie encore toute la semaine.
D'accord. Alors pour l'instant, où est-ce qu'on en est dans les négociations?
Écoutez, on a avancé beaucoup sur le texte de la convention, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, négocié peut-être plus de 90% des articles, hein, parce que concrètement, la convention, c'est un texte, là, c'est des pages et des pages d'articles, et donc faut les revoir et les discuter un par un, et donc on a bien avancé, et maintenant on est rendu au moment où ça coince, c'est-à-dire on garde pour la fin les éléments sur lesquels on ne s'entend pas, les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, et donc dire qu'on a beaucoup avancé ou qu'on a négocié plus de 90%, ça ne veut pas dire qu'on a presque fini, parce que là, maintenant, il reste les questions qui posent problème, en fait, sur lesquelles on n'a pas réussi à s'entendre.
Est-ce qu'on est capable de savoir quelles sont ces
questions qui posent problème? Oui.
Il y en a plusieurs. D'abord, il y a la question de la gouvernance collégiale. On en discutait aujourd'hui encore. Hier, on est dedans. On est dedans à temps plein, je dirais, ces jours-ci. L'idée de la gouvernance collégiale, qui peut-être vous est pas familière, en gros, renvoie directement à ce qu'est la place des professeurs dans la gouvernance de l'université. Mais ça renvoie à la manière dont l'université est gérée et dont la manière dont l'université est gouvernée. Historiquement, l'université, c'est une institution qui s'est structurée, qui s'est développée, je parle pas juste de l'Université Laval, mais des universités en général, autour de ce principe de gouvernance collégiale qui veut que l'université soit gouvernée de l'intérieur de manière, on pourrait dire, démocratique, c'est-à-dire que chaque voix compte, par ceux qui la composent. Et ça, pour des raisons bien simples, c'est que à l'université, on est, si on peut dire, j'utilise toujours cette image, en fait, c'est un peu comme le sommet de la pyramide de l'expertise. Il y a personne qui, de l'extérieur, pourrait venir dire, par exemple, aux mathématiciens, ce qu'ils devraient enseigner ou ce sur quoi ils devraient faire de la recherche. C'est-à-dire que les experts qui maîtrisent le mieux leur domaine du savoir, ce sont les profs d'université. Et c'est la raison pour laquelle l'université comme institution est organisée pour qu'elle soit gouvernée par ceux qui la composent. On peut pas avoir un expert de l'extérieur qui va venir nous dire quoi faire. Et donc, le principe est celui-là. C'est pour ça qu'on fonctionne avec des assemblées où on vote de manière démocratique. On a toutes sortes d'instances, un peu comme sur le même modèle que vos associations étudiantes. Et on est de plus en plus confrontés à un glissement qui fait en sorte qu'on cherche de plus en plus à gérer l'université un peu comme une entreprise privée avec, comment dire, un certain nombre de personnes qui seraient seraient des dirigeants et qui décideraient, et les profs qui seraient des exécutants, comme des salariés, qui feraient donc ce qu'on leur demande. Et ça, ce glissement-là, il s'est fait petit à petit, qui fait
subtilement,
qui fait que la voix des profs compte de moins en moins, que les profs sont de plus en plus traités comme de simples salariés qui sont des exécutants qui doivent faire ce qu'on demande, ce qu'on leur demande, et donc ce que des gens de l'extérieur vont leur demander. Et on a un certain nombre de demandes qui visent à réaffirmer le caractère collégial de l'université, le fait que l'université doit être gouvernée de façon collégiale. Et donc ça, c'est vraiment, comment dire, pour le moment, c'est vraiment un os, on en discute, mais on n'arrive pas à s'entendre.
Vous parlez de demandes, quelles sont-elles précisément, peut-être pour cet aspect-là en particulier?
Très précisément, en fait, c'est dans les définitions de la convention. On a longtemps discuté, négocié, à savoir où on le fait entrer, tout ça, mais il y a, comment dire, si vous regardez, puis là, c'est un peu aride, hein, c'est comme un contrat, finalement, une convention collective. Mais dans le premier chapitre, il y a un ensemble de définitions et de principes qui sont posés et où là, les choses se situent les unes par rapport aux autres. Hein. Il y a le principe de gouvernance collégiale qu'on veut articuler au droit de gérance de l'administration pour affirmer le caractère collégial de l'université. Et ça, c'est important, même si c'est juste un petit bout de la convention, parce que c'est à partir de ces définitions-là et de ces principes-là qu'est lu et interprété juridiquement l'ensemble du texte de la convention. Donc ça peut avoir l'air cosmétique là, de faire la greffe puis de s'obstiner sur une définition ou sur quelques mots, mais c'est très lourd de conséquences. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a un modèle d'université géré comme un Rona ou comme un Walmart, ou est-ce qu'on a une institution qui poursuit une mission d'intérêt public puis qui est gérée de l'intérieur démocratiquement. Et donc hein, c'est ça l'enjeu.
Ouais, allez-y, pardon.
Oui, j'allais dire, je vous parle de gouvernance collégiale, c'est un des enjeux, parce que je vous dis, il y en a plusieurs. C'est qu'un parmi d'autres. En lien avec cette question de gouvernance collégiale, on a aussi des demandes qui concernent la transparence dans la distribution des budgets à l'université, la façon dont sont répartis les fonds entre les facultés et à l'intérieur des facultés, dans les facultés départementalisées, en fait, entre les départements et les écoles. En fait, on veut que l'université rende publique et intelligible les formules qui sont utilisées pour répartir les budgets, parce que évidemment, il n'y a pas de gouvernance collégiale, il n'y a pas de collégialité s'il n'y a pas de transparence, si on ne peut pas remettre en question, critiquer, connaître les formules utilisées, ben évidemment la possibilité de participer à la gouvernance, elle est limitée. Ensuite, dans les autres questions problématiques qui sont particulièrement importantes, il y a celle du plancher d'emploi. Le plancher d'emploi, ça renvoie au nombre de professeurs qu'il y a à l'université, et ça touche directement les étudiants parce que ça met en jeu le ratio prof-étudiant. Vous avez vu peut-être un peu partout sur le campus les affiches qu'on a mis, en fait, pour souligner le fait que à l'Université Laval, on a un important problème avec les effectifs, parce que le nombre d'étudiants a augmenté comme partout ailleurs au Québec, alors que le nombre de profs a diminué. Et on est la seule université au Québec qui, au cours des 20 dernières années, a non seulement pas connu d'augmentation du nombre de profs, mais où le nombre de profs a diminué alors que le nombre d'étudiants augmentait. Et ça contribue beaucoup à la surcharge de travail. Donc nous, ce qu'on demande à l'université, c'est d'embaucher au moins, hein, d'augmenter d'au moins 100 postes de professeurs à l'échelle de l'ensemble du campus, donc le nombre de professeurs, que les effectifs professoraux suivent, en fin de compte, hein, avec l'augmentation du nombre d'étudiants.
Donc, on comprend qu'il y a encore tous ces facteurs-là qui bloquent. Y en a-t-il d'autres? C'est bon?
Il y en a d'autres.
OK, le 10% ouais. Est quand même étoffé d'informations. Est-ce qu'on doit penser que la grève, que vous allez voter une grève illimitée?
C'est assurément et certainement dans l'état actuel des négociations ce qui va être proposé aux membres à l'Assemblée générale. Maintenant, l'exécutif du syndicat propose et l'Assemblée dispose. Hein, c'est l'Assemblée qui va décider. Et évidemment, on peut pas se commettre dire ce que les membres vont vouloir.
Si on se rend compte de tous les enjeux qui restent à négocier, à s'entendre, ça serait voir la vie en rose de croire qu'à la fin de la semaine, tout serait beau et on pourrait tous recommencer la vie normalement, là?
Ben, disons que dans l'état actuel des choses, nous, on retourne négocier cet après-midi. J'en ai pour toute l'après-midi, jusqu'à quelle heure. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont débloquer cet après-midi, mais que tout ce qui est bloqué actuellement débloque d'ici, parce que demain, on n'a pas de rencontre, que tout ce qui est bloqué débloque d'ici jeudi matin, là, ça me semble hautement improbable. Mais okay. Maintenant, on peut pas se commettre à dire si effectivement les membres vont vouloir aller vers une assemblée générale. Ceci dit, dans l'état actuel des choses, c'est une possibilité bien réelle.
Si on part finalement vers une grève illimitée, quand est-ce qu'elle serait annoncée? Et concrètement, qu'est-ce qui se passerait pour les étudiants qui s'inquiètent et se posent beaucoup de questions en ce moment? C'est ce qu'on ressent sur le campus, en tout cas.
Ben, ce qui est sûr, c'est que l'assemblée a lieu jeudi matin, donc une décision va être prise jeudi matin. Est-ce que maintenant la décision, ce sera s'il y a un mandat de grève générale illimité, est-ce que ce sera de l'exécuter, de l'appliquer tout de suite, d'attendre plus tard, après la semaine de lecture, plus tard encore. Là-dessus, je me commets pas parce que c'est une décision qui relève de l'Assemblée. Mais on peut s'attendre à ce qui est, à ce que la grève se poursuive comme on l'a connu la semaine dernière et cette semaine. Ensuite, sur ce qui sera à prévoir comme formule de retour au travail pour les profs et éventuellement de rattrapage pour les étudiants, mais encore une fois, c'est difficile de se commettre parce que d'abord, ça dépend pas que de nous, ça dépend de la durée d'une éventuelle grève. C'est sûr que si la grève dure, je sais pas moi, 5 jours de plus, c'est pas la même chose que si elle dure 2 mois de plus. Oui. les enjeux seront pas les mêmes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, au Québec, peut-être à part la fois où il y avait eu une grève qui avait duré 4 mois, je pense en 74, au moment où le syndicat des profs a été créé, où là, probablement, il n'y a pas eu de session du tout parce que ça a duré plusieurs mois. C'est jamais arrivé qu'une session soit annulée à cause de à cause d'une grève. Donc si on s'appuie sur les leçons du passé, ça semble peu probable. Maintenant, quelles seront les formules de rattrapage? Ben, c'est vraiment à voir parce que ça doit être négocié.
Ouais, ce que j'ai compris, c'est quelque chose que vous allez négocier à la fin de
une fois que les accords sont trouvés pour le reste.
Et aussi,
quoi.
Du coup, voilà. Si je comprends bien, ça veut dire que ce soit de votre part ou de l'autre part, tout le monde est un peu centré. Il n'y a pas réellement de compromis encore possible. Genre, tout le monde est concentré sur ses positions, un peu campé.
Ben, on discute, en fait. Puis là, parmi les autres enjeux, là, juste pour dire, parce qu'il y en a d'autres que ceux que je vous ai énumérés, il y a la question du rattrapage salarial. Aussi, on a des demandes salariales qui sont mal reçues par l'employeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est à l'Université Laval, on a un retard très important sur les salaires des profs par rapport aux universités comparables. Hein. On est au 6e rang du U15, les 15 plus grandes universités de recherche au Canada. On se classe au 6e rang pour les performances en recherche. Pour les salaires, comme dit si bien notre président, on n'est même pas dans le graphique, tellement on est... on est les derniers, mais on est tellement les derniers qu'on n'apparaît pas dans le graphique. Et donc, il y a des demandes salariales. Il y a également des demandes sur, la liberté, l'extension de la liberté universitaire et le lien entre la liberté universitaire et le choix des modalités pédagogiques. À savoir, est-ce qu'on peut ou pas imposer à un professeur et qui a le pouvoir, c'est surtout ça l'enjeu, qui a le pouvoir d'imposer à un professeur que le cours qu'il donne soit offert à distance, en comodal ou etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces décisions-là relèvent de l'Assemblée, que l'ensemble des profs puissent voter démocratiquement.
J'avais vraiment pas pensé à ça.
Oui, c'est un réel problème.
C'est vrai que c'est un enjeu.
C'est un réel problème et c'est une question qui est débattue à l'heure actuelle dans toutes les universités au Québec qui sont en négociation parce qu'évidemment, c'est un effet pandémique. et donc, je sais que les collègues de l'UQAM viennent d'obtenir dans leur négociation la possibilité de refuser toute forme de captation, que ce soit pour de l'enseignement à distance, en classe ou autre. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que ce soit les assemblées et pas les directions de programme qui aient le pouvoir de décider de fixer les modalités d'un cours et de dire que tel cours devra se donner à distance, en comodal, en classe ou autrement. Donc, on veut que ce soit démocratique et que l'ensemble des profs participent à ça parce qu'on pense qu'on a vraiment pas intérêt. Je veux dire, imaginez ce que ça donnerait si dans un département, on avait un programme qui était offert entièrement à distance et que il se trouvait que le deux tiers des profs du département étaient contre. Hein? Ça risquerait de donner beaucoup de mécontentement puis des gens qui seraient frustrés de faire les cours dans un format.
Donc, ouais, ça serait pas bénéfique pour l'étudiant.
Puis aussi, tous les problèmes du coup, que vous illustrez, c'est que ça me fait aussi dire quelque chose, c'est que à court terme, maintenant, même à long terme plutôt, l'Université Laval a tout à perdre parce que si vous êtes actuellement au sixième rang, mais que les professeurs, ben, par exemple, ils ne se sentent pas à leur place et je sais pas, ils pourraient aller dans d'autres universités pour se faire mieux payer, pour avoir leurs droits justement à exercer, bah, qu'est-ce que ça va créer? C'est que l'Université Laval, bah, et même Québec, du coup, par définition, parce que c'est vraiment la, l'université de la ville, bah, ça va dégringoler et puis ça va perdre son charme, quoi. Donc, il n'y aura plus cette puissance.
L'enjeu, c'est la capacité d'attraction de l'université par rapport aux universités comparables. Et, comment dire, pour les collègues, il y a aussi des enjeux de reconnaissance. Il faut savoir, par ailleurs, dans le contexte, un élément de contexte qui est essentiel à connaître pour comprendre le mécontentement des profs sur ces questions-là, c'est que, au cours des 10 dernières années, la masse salariale de la direction et de la gérance à l'Université Laval a augmenté de 96%. Elle a littéralement doublé. Et donc, quand on se fait répondre par l'administration, vos demandes ne sont pas raisonnables, on n'a pas, faut respecter la capacité de payer de l'université alors que la masse salariale de la direction a doublé, c'est un peu gênant. Et ce qu'on demande comme rattrapage salarial que l'université trouve, comment dire, trop important, ça correspond exactement à la moitié de ce qu'il faudrait qu'on ait comme rattrapage pour rejoindre la moyenne du U15. Hey. En fait, ce qui est le salaire moyen du U15, si on voulait rejoindre ça, il faudrait 24,2% d'augmentation. On demande un rattrapage de 12,1. Donc, on demande la moitié de ce qu'il faudrait pour rejoindre la moyenne. Et donc, évidemment, si on nous oppose une fin de non-recevoir là-dessus. En lien avec les salaires, aussi un autre enjeu, on demande une révision des règles qui existent pour l'octroi de primes salariales. Il y a à l'Université Laval, comme dans beaucoup d'autres universités, un système de primes qui permet, par exemple, si on a l'occasion, l'opportunité de recruter un chercheur extraordinaire qui pourrait être à Yale ou à Harvard ou dans une très grande université, de lui donner un supplément salarial pour l'attirer, pour qu'il accepte de venir ou de rester à Québec, hein, que les collègues se fassent pas débaucher par des grandes universités américaines. Et on n'est pas contre l'existence d'un système de primes, parce que ça peut avoir toutes sortes de... Je veux dire, il y a toutes sortes de bonnes raisons d'avoir des primes. Et il y a également des domaines dans lesquels, si on pouvait pas offrir de primes, on n'aurait pas de prof à l'université. Parce que, par exemple, il faut voir ce que gagne un actuaire qui travaille comme actuaire et ce que gagne un prof d'université en actuariat. Donc, il faut que ça puisse être un minimum compétitif. Maintenant, la nature de nos demandes, le problème qu'on voit à l'Université Laval, c'est que le système de primes n'est pas du tout... est pas du tout transparent, en fait. Et donc, il y a un système assez opaque où c'est celui qui gueule le plus fort dans le bureau du doyen qui parvient à avoir une prime avec tout ce que ça peut impliquer ou supposer d'inéquité. Et donc, ben, on dit là-dessus, on peut aller récupérer de l'argent parce que nous, on voudrait que les primes deviennent exceptionnelles. Alors qu'actuellement, c'est un prof sur cinq à l'Université Laval qui touche une prime. On trouve que c'est quand même beaucoup, en fait, hein, et que si les salaires étaient plus compétitifs, on pourrait donner moins de primes avoir un système beaucoup plus transparent parce que le problème à l'heure actuelle, c'est que les règles sont pas claires. Il y a des directeurs de programme qui touchent des primes substantielles, d'autres qui ont pas un sou comme prime. Mais il n'y a pas de bonne raison à ça. Okay.
Bon, mais en tout cas, on comprend bien vos volontés de plus de transparence, de collégialité et de revalorisation salariale. On entend bien tout ça. On va continuer de suivre et de rester en contact avec le SPUL pour savoir ce qui va se passer jeudi. On tiendra bien évidemment les étudiants informés de ce qui va se passer. Merci Madeleine Pastinelli d'être venue parler ce midi
de
au micro.
De nous avoir éclairci.
Voilà, c'est ça.
Je vous remercie. C'est un plaisir. Puis j'espère sincèrement que cette grève durera le moins longtemps possible. Parce que vous savez, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Nous, on souhaite pas faire la grève. Mmh. Ce qu'on veut, c'est arriver à un règlement aussi rapidement que possible, mais à un règlement qui soit satisfaisant, parce qu'il y a des problèmes qui sont vraiment importants et qu'il faut résoudre, et résoudre, on l'espère, une bonne fois pour toutes, en fin de compte.
Mais lorsqu'on signe, on signe pour plusieurs années aussi, donc c'est important de bien signer.
C'est
oui,
ça.
Tout à fait. Ben, je vous remercie.
Merci encore. On part tout de suite en pause musicale. De retour sur le Chiz 94.3 pour le dernier segment de l'émission. Il est déjà 24, donc on va pas rester beaucoup plus longtemps avec vous. Mais on a quand même un petit sujet un petit peu drôle pour finir l'émission. Alors, j'ai une question pour vous, déjà autour de la table. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres?
Oui.
Juste oui.
Oui. Oui.
J'attendais juste que tu me répondes ça, Megan. Et toi, Alexis?
Alors, c'est compliqué. Dans, on va dire, une forme de vie, on va un peu nuancer, une forme de vie, du coup, extraterrestre dans le sens hors de la planète Terre, oui. Les extraterrestres, par exemple, comme on l'imagine dans les films, non, clairement pas.
Ok. Et toi, Megan, c'est quoi?
Moi, j'y crois.
Ok.
Puis je me dis que c'est possible. Puis quand on se pose la question à savoir, est-ce que c'est bizarre de vivre sur un morceau de roche dans un univers infini où qu'on connaît rien, genre, je trouve que c'est quand même plausible de dire, est-ce que ça se peut qu'on n'est pas les seuls, puis qu'il y ait d'autres personnes qui vivent que nous? Tu sais, est-ce qu'on est vraiment le centre du nombril de l'univers? Je pense pas.
OK. Ben, écoutez, vous faites partie des 1 Canadien sur 10 qui pense que les extraterrestres existent. Mais, alors, non, pardon. 1 Canadien sur 10, c'est ceux qui pensent que les extraterrestres pourraient venir nous visiter sur Terre. Je pense qu'on est un peu plus à peut-être croire qu'il y a une forme de vie ailleurs dans l'univers.
Personnellement, j'aurais cru qu'il y avait plus de personnes qui y croyaient, parce qu'on dirait que...
Ben après, là, c'est vraiment le côté venir sur Terre. Fait que c'est quand même une précision okay, qui ouais. joue, tu sais.
Je comprends.
Mais voilà, donc 1 sur 10 ici. Sur le monde entier, c'est 18%. Et devinez le pays où c'est le max.
Ah bah on les connaît, hein
Je t'écoute.
C'est pas les Américains.
Non.
Eh ben non, c'est en Inde où il y a 43% des personnes qui interrogées croient que les extraterrestres vont venir nous visiter.
Ah bah écoute, ça fait du sens parce que les religions en Inde là, c'est beaucoup formé sur des dieux qui seraient venus sur Terre pour les aider, pour les mettre en branle et tout. Donc dans ma tête, ça c'est logique là.
Ouais, bah ça m'a paru assez cohérent aussi en pensant à tout ça. Mais c'est vrai qu'au départ j'étais surprise. Dans ma tête aussi, ça allait être les États-Unis. Tu penses que c'est combien pour les États-Unis de pourcentage?
En pourcentage, du coup, tu m'as dit pour l'Inde, c'est combien déjà?
43.
43. États-Unis, allez, on va dire 37%.
Et même pas. C'est 17%
seulement.
C'est pas beaucoup. Moi, je suis surprise aussi, mais je pense que c'est parce que on entend beaucoup aux États-Unis des histoires autour de ça, où des gens qui s'imaginent que les extraterrestres sont en train d'arriver. On a eu nos ballons chinois qui ont ravivé ça aussi.
Et quand on sait que c'est un peuple qui pense que les vaches noires produisent du chocolat au lait ou on tire sur des tornades,
bon. Là, on va pas généraliser.
On va pas généraliser.
La population de 300 millions de personnes qui habitent aux États-Unis, quand même.
C'est ça. Mais c'est juste qu'on a des histoires parfois drôle qui arrive de là-bas, fait que du coup je comprends que t'aies pu penser ça. Voilà, donc c'était un petit peu le petit chiffre marrant de l'émission, on va dire improbable.
Le saviez-vous que
voilà.
Faudrait qu'on se fasse une petite musique là. Saviez-vous que avec Azélis.
On verra, on fera peut-être ça pour la prochaine émission si on a une nouvelle petite anecdote comme ça. En tout cas, il est 13h27 les amis, il va être temps de se quitter déjà. C'est passé vite aujourd'hui. Hein.
De toute façon, comme tous les musiciens, à chaque fois, ça passe très rapidement.
Bon, mais dans tous les cas, on vous souhaite une belle semaine de relâche et on se retrouve dans 2 semaines, du coup, pour la nouvelle émission.
Et oui, ça
et
pense.
Oui, ça va venir vite, hein.
Oui.
Voilà. Bon, on revient dans une semaine pour vous décrypter l'actualité. Merci encore de nous avoir écoutés et passez une bonne après-midi à l'écoute du 94.3.
Aux très chers auditeurs du Cheese 94.3. Savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule Chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule Pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Cheese 94.3 FM. On the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Le basketball du Rouge et Or est de retour sur les ondes de Cheese 94.3. On vous présente le programme double du jeudi 2 mars alors que les équipes féminines et masculines du Rouge et Or sont en demi-finale de la RSEQ. Joignez-vous à nous dès 18h pour le match des femmes contre les Citadins de l'UQAM et à 20h pour le match des hommes contre les Gators de Bishop. Cheese 94.3, la radio officielle du Rouge et Or de l'Université Laval.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
The following program is disturbing.
Cash Crowd.
Mardi 20h.
Cheese 94.3.
D'écoute!